11h. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier magazine de la moto de cette saison radiophonique 2018-2019. Tous les dimanches désormais sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com ou encore maintenant sur le DAB+, la radio numérique. Au sommaire de ce magazine, retour sur le championnat du monde de vitesse 2018 avec deux passionnés de vitesse, Claude Bonduel et Nicolas Poiret. Messieurs, bonjour.
Bonjour Amish.
Oui, bonjour.
Alors, on a eu trois mois hein, sans radio, donc, mais il s'est passé plein de choses. Alors, Ducati qui gagne, qui monte sur le podium à chaque course.
Oui, qui atomise toute la concurrence.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, on se demande bien, oui, effectivement, parce que...
Lorenzo, qui a été licencié depuis deux mois, maintenant gagne. Alors, je sais pas si c'était pour...
Exactement. Ouais, c'est, ce qui est remarquable, c'est que... En fait, ils ont viré tous les meilleurs, en fait. Hein. Ils ont viré Lorenzo, il n'arrête pas de faire des pôles et de monter son podium.
C'est l'erreur de Ducati, du team Ducati, quand même.
Yannon, c'est le meilleur chez Suzuki, il se fait virer. C'est dingue. Pedrosa, Pofosa, c'est pareil.
Ah oui. C'est fini, la carrière.
L'année prochaine, alors que c'est pas mauvais. Ouais. Donc c'est assez étonnant. Hein.
La déroute de Yamaha, alors qu'est-ce qui se passe chez Yamaha? C'est pas possible quand même. Rossi, 14e. Alors on parle pas de. Aussi Zarco, là, notre pilote français. Alors lui.
Oui, c'est Zarco qui est 14e.
Oui. C'est Zarco qui avait
14e.
Oui, écoute. Voilà, après. Et puis le scandale du Grand Prix d'Angleterre. Alors là, incroyable. Là.
Annulé.
Annulé, on n'a jamais vu ça quand même. Tout ça à cause d'un revêtement qui n'est pas prévu pour la pluie.
Oui.
En Angleterre. C'est quand même.
On a déjà vu ça, mais il y a très longtemps. Ouais.
C'est pour la neige.
Non. À Spa-Francorchamps, on a vu ça dans les années 80, au début des années 80.
Oui, parce qu'il
y a un resurfaçage.
Oui.
Et il y avait trop de bitume qui. Enfin, de. Gazole qui montait au-dessus du bitume, et ce qui fait que ça glissait de partout et ils n'ont pas le grand prix.
Non, mais alors en Angleterre, ils ont voulu faire des économies sur le revêtement, et puis en fait, c'est un revêtement non drainant en fait.
En fait, d'après ce qu'on a compris après, le gars qui a refait le circuit, il avait dit pas de Formule 1 pendant 2 ans. Et 3 mois après, il y avait une course de Formule 1, donc ils ont tout bousillé.
Ah ouais. Ah dis donc, alors c'est caissiste alors. Hein. Ouais. Voilà. Et puis alors, il faut parler en moto 2 hein, du geste irresponsable de Romato Fenetti sur Stefano Manzi au Grand Prix de Saint-Marin. Alors là, vous avez vu ça?
Fenetti.
Vous racontez un peu ce qu'il a fait en pleine ligne droite. Il prend le levier de frein avant.
Ouais, ça fait le tour du monde, ça fait le buzz, mais en fait.
Ils étaient à 250 km/h quand même.
Ouais. Hein. Mais ce qu'on n'a pas vu avant, c'est que deux fois Manzi vie, il l'a foutu dans les graviers.
Oui, mais ça, c'est dans des blocs pass.
C'était pas devant les caméras. Et donc après, avec CD, il a fait ça. Et il l'a fait gentiment, à mon avis, parce que s'il avait vraiment pris le frein, lui qui était à la même vitesse que lui.
Moi, je l'ai vu aussi.
Il était à la même vitesse. Il lui a juste pris le levier sur 5 mètres, et puis voilà. Donc le gars, il était un petit peu surpris, forcément. Il y a un gars qui prend son guidon. Mais bon, ça fait le buzz. Mais le retentissement que ça a eu et les conséquences que ça a pour lui.
Alors lui, il est viré, ça y est. La moto, pour lui, c'est terminé.
L'année prochaine, il y aura une.
Ah non, je pense qu'il a.
Non, sa licence, il la conserve, il la récupérera l'année prochaine.
Non, il est licencié partout.
Il est licencié, quoi.
La seule chose, c'est qu'il est licencié et son futur contrat est rompu aussi.
Oui, mais ils ont supprimé sa licence à vie. Ils sont venus après, ils ont supprimé sa licence à vie.
Oui, il va regarder les Grands Prix, mais à la télé. Oui,
voilà, ils l'ont assassiné, en fait, en direct, pour ce truc-là.
Et puis alors, Marquez, il risque d'être champion du monde 2018. Hein.
Il risque pas, il va y être.
S'il n'y a pas un accident, dans les deux prochains Grands Prix, il sera.
Parce qu'on a quand même. C'est Dovizioso qui a pris la place de Rossi en deuxième position, champion du monde, hein, quand même.
Déjà l'an dernier.
On va avoir un enregistrement, on passera ça en deuxième séquence de Christian Sarron avec Yann Zarco. Oui, qui est pas mal, on écoutait.
Christian Sarron a interviewé Yann Zarco.
On va vous passer ça là, donc, à la radio.
Oui, c'est vrai.
Voilà, on va rendre hommage aussi à Fabrice Miguet qui est décédé le 11 août dernier lors de l'Usta Grand Prix en Irlande. Nous avions eu la chance d'avoir Fabrice au micro de Campus en janvier 2016. Il faut rappeler aussi que Fabrice avait participé au Tourist Trophy avec la Black Magic. Il avait fait tourner.
Avec la Voxen.
Avec la Voxen. Voilà. Donc, la suite du programme aussi avec Michel et Alex du team Cocorico Rando. Alors, Alex n'est pas là aujourd'hui, hein. Il est en reconnaissance. Voilà. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Attends, t'as pas ton micro, il marche pas. Attends, on va. Voilà.
C'est bon, là.
Voilà, ouais. C'est bon. Là, maintenant, je t'entends très bien. Les auditeurs aussi t'entendent très bien. Voilà.
Bonjour à tous les motards qui nous
écoutent. Vous revenez du Qatar, hein. Pas du Qatar, pas du Grand Prix, mais de la région de Carcassonne, par là.
Exactement, c'est une rando qui démarre autour de Carcassonne, et puis ensuite, on rejoint Axat, et il y a une boucle. Et retour vers Carcassonne, c'est 3 jours.
Voilà, Cocorico Rando organise 5 événements dans l'année, hein. Donc le Paris-Dakerque.
Oui, le Paris-Dakerque.
La Royale, la Versailles GTORX.
Voilà. Disons qu'il y a même avant, au mois de mars, l'organisation d'un accueil de pilotes sur un terrain privé, c'est la March Moto Madness.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Ça, c'est sur le programme, c'est sur votre site. Hein.
Exactement. Voilà.
Olivier, hein, qui a participé à cette fameuse randonnée Qatar, le Qatar. On appelle ça, vous l'appelez ça, la Qatar. Hein.
La Qatar Moto Trail.
Voilà. Olivier, bonjour.
Bonjour, motard.
T'as pas l'habitude de la radio.
Ouais, bien.
Voilà. Donc ça s'est bien passé.
Ouais,
c'est Africa Twin.
En Africa Twin, ouais.
Voilà. Donc tu fermais le parcours, en fait.
Ouais, alors j'ai participé depuis très longtemps à toutes les randonnées. Et cette année, l'organisation m'a demandé de leur donner un petit coup de main. Et j'ai testé à la fois fermeur et puis, comment on appelle ça, marshal chez nous, où en fait on est amené à naviguer un peu dans la randonnée pour aller sur les points de difficulté qui n'étaient pas prévus dans l'organisation.
Voilà, très bien, tu nous expliqueras un peu comment ça se passe, parce qu'il faut suivre les gens, les pilotes. Hein. Il y a combien d'engagés?
En fait, il y avait 150 engagés là, à la Qatar. Et grosso modo, au niveau du staff, pour l'événement, pendant la durée de l'événement, on est 20 personnes quand même. Hein.
Très bien. Donc, Léolier, tu as payé moins cher, en fait, mi-tarif.
Oui, voilà.
Puisque tu participais.
Moi, je travaillais là.
Tu travaillais.
Moi, je bossais ce week-end là. Les autres week-ends, j'étais en participant et en touriste.
En touriste.
En trahiste.
D'accord. Et voilà. Bon, voilà, très bien. La suite du sommaire, et pour le terminer aussi, ce sommaire, eh bien, nous allons parler balade du DGR avec Luc au téléphone dans quelques minutes et de la 6e aussi édition des Belles Mécaniques qui auront lieu dimanche prochain à Bolzel. Et je précise que nous avons des entrées à vous offrir pour le Salon de la Moto qui ouvre ses portes jeudi prochain. Voilà. Laurent, bonjour.
Eh bien,
depuis 3 mois qu'on ne s'est pas vu, tu
nous
as préparé.
J'ai plus de voix. Ça commence mal.
Ça commence mal.
C'est parti.
Voilà, avant de commencer cette émission, je tiens à dire un petit bonjour aux motards et aux motardes de Mayenne. Voilà, c'est fait. Nico, on commence avec la MotoGP, donc tout ce qu'on a énuméré. Qu'est-ce qui se passe chez Yamaha? C'est pas, on voit Rossi qui est dans. Alors combien le dernier Grand Prix là?
Grand Prix, il a terminé septième.
Septième.
Septième. Ouais.
C'est le moins pire en plus, oui. Non, en fait, le problème de Yamaha, apparemment, parce que ça fait quand même deux ans que ça dure. L'an dernier, déjà, ils ont souffert. Ils arrivaient à peu près à sauver les meubles, mais ils avaient déjà des problèmes vis-à-vis de la concurrence. Cette année, en seconde partie de saison, ça s'est accentué énormément. Et apparemment, ça serait le moteur qui donnerait une mauvaise motricité à la moto. Donc, du coup, ils vont jusqu'à se poser des questions sur le choix du 4 cylindres en ligne. Yamaha, il y a un 4 cylindres en ligne, alors que Ducati et Honda ont un V4.
Surtout que le moteur date de 2004. C'est le moteur qui a permis à Valentino de revenir devant. La technique interne n'a pas changé. Il y a tout ce qu'il y a autour qui a changé, mais pas le moteur proprement dit. Donc, l'ancien patron de Yamaha, qui est parti il y a 3 ans, avait dit qu'il faudra évoluer et changer le moteur s'ils veulent gagner dans l'avenir.
Est-ce qu'on a le droit de faire évoluer le moteur durant une saison?
Non, quand on a le droit, quand, par exemple Suzuki jusqu'à présent avait le droit parce qu'ils n'étaient jamais montés sur un podium. Là ils sont montés sur un podium la semaine dernière, du coup ils perdent l'avantage pour l'année prochaine de pouvoir faire évoluer le moteur en cours de saison. Mais par contre, justement, intéressant, parce que Suzuki c'est aussi un 4 cylindres en ligne. Et eux, ils arrivent à le faire marcher à peu près quand même. Donc, il y a quand même un vrai problème. Donc, apparemment, à force de pousser ce vieux moteur dans ses retranchements, la motricité, il y a de la puissance, mais au détriment de la motricité. Et du coup, ça patine. Et c'est ce qu'ils disent tous. Ils disent on patine en ligne droite en accélérant.
Alors, comment ça se fait? Parce que Ducati, en début de saison, c'était pas performant. Et que là, pratiquement depuis 3 mois, on les voit pratiquement sur le podium.
Ils étaient performants, mais sur certains grands prix.
Ça veut dire qu'ils ont fait évoluer. Ils ont le droit de faire évoluer leur moteur.
Alors,
leur
Ducati, ils sont très forts, c'est au niveau de l'électronique. Et c'est Magneti Marelli, la boîte électronique. Ils maîtrisent complètement parce qu'ils l'ont fait en Superbike précédemment. Et eux, ils arrivent à modifier ça. Donc en fait, ils sont meilleurs. Avant, ils étaient très bons sur certains circuits et moins bons sur d'autres. Et maintenant, je pense aussi que c'est grâce à Lorenzo, quelque part, parce qu'il a fait évoluer la moto pour qu'elle tourne mieux. Et ils arrivent à faire tourner mieux la moto. Et Lorenzo lui-même le dit. Donc un petit peu au niveau du châssis, ça, on a le droit de toucher. Et puis au niveau électronique.
Oui, alors le cas Lorenzo, qui pratiquement n'arrivait pas à s'adapter à la machine.
Ouais,
et il demandait justement à modifier la longueur du réservoir ou la forme du réservoir.
Ouais, pour pouvoir
et à partir de là, il a commencé à gagner.
Oui, c'est marrant parce que c'est vrai qu'ils l'ont licencié dès le début de l'année. quasiment. Et ils l'ont licencié. Et,
au Grand Prix de France.
Ouais. Donc il y avait trois Grands Prix, quoi. Et ouais. Alors qu'il a commencé à fonctionner après, en fait. Et donc c'est quand même bizarre. On se retrouve avec des gens performants qui seront plus là l'année prochaine. Et c'est eux qui tirent les écuries. Donc par exemple, Smith, c'est le seul mec qui est encore valide chez KTM pour rouler. Espargaro s'est re-blessé. Ouais. Ouais. Mais il est viré à la fin de l'année. Donc ouais. Comment ça peut faire évoluer des motos avec des gens qui sont pas motivés vu qu'ils sont fait jeter. Donc en ayant fait le marché de la moto pour l'année d'après, trop tôt dans la saison, ils ont foutu en l'air la saison quelque part. Hein,
je pense aussi, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Ils devraient au moins attendre 7 ans en ce moment pour les transferts.
Oui, les transferts, moi aussi j'ai trouvé que c'était en début de saison, c'était ridicule parce qu'on avait
on n'avait même pas
commencé la saison, enfin au quatrième Grand Prix. On parlait déjà de l'année prochaine, des changements de pilote pour les marques.
Ça casse le truc.
Donc forcément, les gens, ils sont plus motivés pour pouvoir tourner. Ouais. Et oui, donc alors c'est dommage que Lorenzo, c'est sur deux courses, là, il chute deux fois. Mais
oui, mais il était performant.
Mais il était performant.
Il a fait la pole.
Il a fait deux poles. Et on ne sait pas ce qui s'est passé au dernier Grand Prix là. Il a pratiquement au shot, hein, au premier virage, il chute.
Ouais. Ah bah si, il est passé sur une partie sale de la piste. Il accélérait comme un bon et il s'est retrouvé par terre. Hein. Il a fait un beau backside. Et après, il a mis ça sur le dos de Marquez. Mais Marquez, il pouvait rien. Marquez, il a eu une trajectoire un peu pourrie aussi. Mais dans ce Grand Prix-là, le premier virage, il est tellement serré, il est tellement proche de la ligne de départ. Ils arrivent comme des oufs à 35 tous en même temps. Donc, il n'y a pas de solution. Forcément, il faut faire des compromis. Donc, on ne peut pas avoir une belle trajectoire toute nickel dans le premier virage alors qu'on est 35 à arriver dedans.
Est-ce que vous pensez que si jamais... avec Desi, on peut tout refaire le monde. Hein. Ouais. Si Lorenzo n'avait pas chuté... Et il aurait pu reprendre des points à Marquez et puis avoir un final de championnat à couteau tiré avec au dernier Grand Prix.
À couteau tiré, je dirais pas ça, parce que quand on regarde le début de saison de Lorenzo, qui avait au sixième Grand Prix 16 points, ça fait lourd à remonter, même s'il gagne maintenant. Parce que ça lui fait actuellement 77 points d'avance.
Là, j'ai regardé, hein, donc Marquez a 246 points. Et le deuxième, c'est Dovi, c'est 174. Alors,
77 points d'avance.
Ouais, ouais. Ouais, la messe est dite. Hein, mais,
la messe est dite,
ouais. Ouais, ouais. Mais bon, si à part une blessure, mais autrement, oui, Marquez, il est propulsé pour un nouveau titre. Mais ouais. Oui, c'était le seul à pouvoir, avec c'est Ducati en tous les cas, c'était le seul à concurrencer un peu.
Dovizioso, Lorenzo, oui, c'est les deux seuls avec Ducati, ouais.
Ouais, donc, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on parle beaucoup de Lorenzo. Bon, mais il est quand même assez loin au classement maintenant. Et on parle assez peu de Dovizioso ici. Il est quatrième. Dovizioso qui démérite pas. On a l'impression que la locomotive Ducati, elle est tirée par Lorenzo. Mais Dovizioso, il gagne
vraiment aussi. Ils font émulation.
Ouais.
Ouais. Non, c'est Dovizioso, il a gagné depuis l'an dernier. Il a gagné en notoriété et en.
En maturité,
et puis il croit en lui, et il a raison, parce que
il croit en sa moto, ouais. Il croit en lui, et surtout il gagne face à Marquez en combat
à la régulière.
Ouais. Oui, on a vu que Marquez il avait quand même du mal avec la Ducati, hein, quand même.
Ça veut dire à quel point les Ducati sont bonnes.
Ah oui,
parce que Marquez c'est quand même le meilleur pilote. Donc s'il a du mal pour battre les Ducati, c'est qu'elles sont vraiment bonnes.
Olivier, qu'est-ce que t'en penses, toi qui roules sur Honda?
Écoute, moi de cœur c'est Ducati. Ouais, j'écoute tout ça. J'ai un peu décroché de la piste depuis quelques années, mais en vous écoutant, ça redonne envie de
regarder les Grands Prix.
De regarder les Grands Prix, effectivement. Et,
c'est bien.
Et de voir l'actualité qu'il y a, effectivement.
C'est un spectacle.
Je suis assez d'accord avec vous. Le fait de faire les transferts comme ça, tôt en saison.
Oui, là, ça, c'est vraiment stupide. Hein, parce que vraiment,
en termes de motivation, ouais. En termes de management, c'est un peu débile, quoi. Hein. On imagine le pilote qui doit finir la saison. En se disant qu'il est plus qu'il fait le boulot pour les autres.
Regarde notre pilote français, Zarco, il est désabusé, il fait même plus attention à la place qu'il a sur la grille quand il fait les.
Zarco, ça fait mal parce qu'effectivement l'an dernier c'était tout feu tout flamme. Et cette année,
début de saison, les 4 premiers Grands Prix.
Et puis depuis sa chute du Mans, alors qu'il avait fait la pole au Mans, il n'y a plus rien. Donc justement, il y a Christian Sarron.
T'as trouvé un enregistrement, Nico, là, sur Internet. Et donc, Christian Sarron qui pose des questions à Yann Zarco. Ouais. Christian Sarron qui a été pilote, un très bon pilote, Michel.
Ouais. Bien sûr, il y a quelques années.
Christian Sarron, il est pour Eurosport et c'est pour Eurosport qu'il avait fait...
On va passer à un morceau de musique.
et on passera à cette interview juste après. Ouais. Restez avec nous surtout.
Bonjour Christian. Comme beaucoup, je me pose beaucoup de questions. Je suppose que tu t'en poses aussi. Je voudrais juste te préciser avant de commencer que ma première année de 585, tout s'est passé un peu comme pour toi, comme sur un nuage. J'ai fini troisième cette année-là du championnat du monde. J'avais gagné un grand prix. Et puis la deuxième année, ça s'est compliqué. J'ai fait peut-être un ou deux podiums, mais c'était beaucoup plus compliqué. Il semblerait que pour toi, ce soit un petit peu la même chose.
En effet, on prend depuis la course du Mans et cette chute. Toutes les courses suivantes ont été mauvaises ou moins bonnes. Et on peut se dire, alors il a été touché psychologiquement, il a perdu quelque chose. Et là, après avoir donc couru, je ne sais pas, je ne les compte pas, mais peut-être 7 ou 8 courses depuis ce Grand Prix de France, je vois que non, je n'ai pas été touché psychologiquement. Mais je vois aussi que... À partir de là, les Ducati ont commencé à se mettre en route très fort. Et là, je viens de terminer, on va dire, le Grand Prix de Saint-Marin à Misano. Et à un moment, j'ai pu tenter de les suivre. Et j'ai dit qu'on ne jouait pas dans la même catégorie. Donc lorsque une différence de moto commence à devenir trop importante, eh bien, oui, c'est bien de se remettre en question, mais il ne faut pas non plus partir dans le doute. Et c'est des leçons de vie.
L'an dernier, la même chose aurait se passé. mais que les teams officiels travaillaient, les pilotes officiels se remettaient en question, progressaient. Mais malgré tout, en fin de saison, tu as été exceptionnel dans les résultats. Donc, est-ce que cette année, tu nous prévois ça pour la fin? Je pense en particulier à Philippe Island.
J'y crois pas. Le copier-coller de l'an dernier, j'y crois pas. Parce que je sais qu'il faut vivre le présent et prendre ce qu'il y a à prendre. Et l'an dernier, on est en 2017, j'avais la moto de 2016. Utiliser 100% de la moto 2016 en 2017, ça me rendait compétitif. Utiliser 100% de la moto 2016 sur le premier tiers de la saison 2018, ça marchait encore. Et depuis qu'on a passé ce premier tiers, le 100% 2016 ne fonctionne plus en 2018. Et là, c'est finalement la meilleure explication que j'ai. En effet, il faut peut-être aussi que je me remette en question et j'essaie de progresser sur moi-même, de savoir quelle info je peux dire sur la moto, qu'est-ce que je peux faire en pilotage pour toujours progresser. Mais ça, c'est instinctif pour le pilote de vouloir progresser lui-même. Mais là, voilà, le 100% 2016 n'est plus compétitif en 2018.
Ben, l'équipe officielle IEMA, il y a quand même un petit malaise, les pilotes le disent. Et donc, toute l'énergie est probablement pour le team officiel. Et toi, tu en fais un petit peu les frais avec Tech 3 qui a déclaré que, aussi bien toi d'ailleurs que Tech 3, vous partez chez la concurrence l'an prochain. Ça ne doit pas aider non plus, ça, non?
Ça n'aide pas. On n'est pas moins bien fourni. On reste simplement au niveau auquel on était. La dernière modification que j'ai eue sur ma moto, elle était en Thaïlande en février. Et depuis, on est figé. Donc ça a marché jusqu'à la qualif du Grand Prix de France, je dirais. Parce que même en course, quand j'étais derrière Lorenzo avant de chuter, je voyais déjà que ça devenait compliqué. C'est ça qui m'a d'ailleurs fait un peu paniquer et j'ai chuté trop tôt. J'aurais pu le doubler plus tard, mais au risque de me refaire doubler par Marquez, etc. Donc, même si on peut dire le Grand Prix de France c'était bien, ou j'avais un surplus de forme, mais on était déjà dans la mouise, on va dire.
Un petit peu inquiet pour toi l'an prochain. Toi, tu as dû en piste suivre déjà des KTM. Quels sont les points forts ou les points faibles de cette moto? Parce que quand vous êtes ensemble sur la piste, tu as un œil que nous n'avons pas.
Oui, en effet. Mais je n'ai pas eu la chance de vraiment souvent les suivre. Et j'ai du mal à juger de derrière. Moi, j'attends vraiment de monter dessus. Et j'affronte le challenge, vraiment. C'est vrai que là, si on prend la moto, elle n'est pas aux avant-postes. Donc, ça sera un peu la surprise de voir ce que je peux en tirer. Moi, mettant à part la moto, en prenant toute la structure autour, on est en MotoGP, c'est un peu comme la Formule 1, ça coûte de l'argent. L'équipe a de l'argent et avec Red Bull et donc peut se donner les moyens d'y arriver. Alors moi, je sais que j'ai cette force mentale de pas regarder trop les autres ou de pas dire c'est mieux ailleurs, c'est moins bien chez moi. Moi, je me régale avec ce que j'ai. Et ça, voilà, je crois que ça sera ma force chez KTM.
Merci, Joël.
De rien.
Bonne chance.
Bon, je pense que c'est pas l'année prochaine qu'on aura un champion du monde français. Hein.
Non, mais c'est intéressant de voir son état d'esprit, quoi. Parce qu'il répond à toutes les questions qu'on se pose, hein. À savoir les contre-performances de Yamaha, ce qu'il peut donner l'an prochain.
Alors, KTM.
On verra bien, mais c'est vrai qu'ils ont du chemin à faire.
Alors, il y a Olivier qui nous parlait de KTM et en trail. Hein, une moto très performante.
Oui, effectivement. Moi, j'ai roulé pendant 2 ans en trail avec un KTM 990 Adventure, qui était une moto qui était utilisée en compétition et qui a été faite pour la compétition dans les années 2000. Qui a été ensuite, suite au changement de réglementation sur le Paris-Dakar, qui avait été un point d'interrogation pour KTM, savoir ce qu'ils allaient faire du développement avec cette moto. Et bon, c'est... Il leur faut un peu de temps, ils ont les moyens.
Ils sont performants dans des rallyes raids.
Ouais, mais si tu veux, moi j'ai commencé à faire du motocross quand j'étais gamin avec une KTM. Pendant des années, on les a vus disparaître du scope sur les circuits. Et puis d'un seul coup, ils sont mis à revenir avec des volontés de revenir fort. Alors c'est vrai que leur gêne, c'est le tout-terrain. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, c'est une marque qui est leader en motocross. Et ils sont revenus, ils sont revenus de leur cendre.
Comme tu suis pas à l'info course, GP, on te dit qu'en fait, KTM.
C'est ce que je découvre, ils sont en train de revenir.
Tout ce qu'ils ont entrepris, ils l'ont gagné.
Oui. Hein,
c'est vrai que même en moto 3, en moto 2 aussi.
Mais il rame en moto GP hein, depuis ça fait 5 ans qu'il.
Ouais, mais moto GP, c'est pas le top pour rien.
3 ans, oui, on est pas 2 ans près, Claude.
Et c'est vrai qu'en.
Si, justement.
En motocross, en MX et en rally raid, ils sont imbattables. Donc en fait, ils ont une puissance, ils savent faire. Mais après, c'est tellement spécifique. Quand on voit que, ce que disait Zarco, entre une moto qui est du début de la saison et qui n'a pas évolué, ça fait un grand fossé. Donc là, ils ont du chemin à parcourir avant d'arriver au niveau.
C'est quel moteur? C'est un 4 cylindres sur la KTM?
Oui, bien sûr, c'est 4 cylindres C4. Ouais.
Par contre, c'est la partie ici qui est différente des autres constructeurs.
Ouais, ils reprennent un petit peu ce que faisait Ducati dans le temps, à savoir un châssis tubulaire.
Un treillis tubulaire.
Ouais. Ouais. Et donc, ça aussi, ça va être compliqué. C'est plus dur à faire évoluer. Il n'y a personne qui a cette solution technique-là actuellement. Même Ducati, qui était le chantre de ce dispositif, il est venu un cadre-poutre en alu. Donc
bon, très bien. On va continuer le sommaire parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. On va rendre hommage à Fabrice Miguet juste après le morceau de musique.
Triumph and disaster, treat them both the same. The days that follow after should feel neither pride nor shame. Delusion, sweet delusion, won't be the spark that lights a flame. We'll be right back.
Voilà, dans cette émission, on voulait rendre hommage aussi à Fabrice Miguet. Renaud, bonjour, c'était ton ami ?
Ouais, bonjour, ouais. Bah ouais, c'est un bon camarade de, pour les courses sur route, quoi. Et puis,
tu l'avais accompagné déjà sur le Tourist Trophy ?
Ouais, sur le Luster Grand Prix.
Le Luster Grand Prix, ouais.
Différentes courses ici plus près, quoi, que le TT.
Donc on l'appelait Mig ?
Ouais, le Mig, ouais.
C'était le pilote français le plus rapide au Tourist Trophy.
Exactement, ouais. Toujours en avance sur le retard prévu. C'était sa devise.
Toujours en avance sur le retard prévu. D'accord.
Il a été courir en Macao aussi, je crois.
Il a fait Macao aussi.
Donc on dit, dans le sommet, on dit que justement, il avait tourné avec la Vox 1, la Black Magic.
Là, il l'a fait, ouais. Il l'a même fait monter à Pikes Peak.
Oui, il a monté de Boss Pass Peak, la course dans les nuages.
La course dans les nuages, oui, il l'a fait avec la Vox 1, ouais.
La Vox 1 aussi, ouais, effectivement.
Et il a fait même les courses en République Tchèque, etc. Il a fait tout ce qui est IRCC, il les a fait. Tout ce qui est courses sur route.
Je crois 19 fois le TT, le Tourist Trophy.
Ouais, 18 fois depuis 2000 ou 99 la première course, ouais. Je crois. Et depuis, voilà, quoi, il a fait tout.
Voilà. Il s'appelle Grand Michel. Hein, il y a une fondation, une association qui va se créer. Voilà, je crois, à mon avis, on l'a au téléphone.
Ça serait bien, ouais.
Oui, il y a une fondation qui va se créer, qui va s'appeler
C'est une association, Fabrice Miguet. Ouais, qui va s'appeler Fabrice Miguet le Mig.
Oui.
Pour justement mettre en place une dynamique qui va, on va dire, accompagner les jeunes qui vont vouloir faire de la moto sur route, de la moto de course.
On l'a au téléphone.
On l'a au téléphone.
Il a eu notre message.
Mieux que moi.
Cool. Allô, c'est Grand Michel.
Salut Michel.
Bonjour. Bonjour, on a failli souper, hein.
C'était chaud, ça.
C'était chaud, ouais.
Voilà, donc on est en train de parler de Fabrice, là. Donc, j'annonçais donc à l'antenne qu'il va y avoir une association, une fondation, hein, qui va s'appeler Fabrice Miguet.
Oui, c'est ça, elle a été créée hier. On a fait une assemblée générale constitutive là, hier matin. Il y avait un peu plus de 150 personnes, hein. Ça y est, on a constitué le bureau et puis on a exposé les projets qu'on voulait mettre en place pour Fabrice. Deux projets qui sont très importants. Le premier, c'est une statue qu'on voudrait grandeur nature, un peu comme a eu Joey Dunlop en Irlande. Donc une statue grandeur nature bronze qu'on est en train de faire. On a fait faire des dix. Et en plus, on a eu l'accord de la municipalité de Chambois, là où Fabrice est enterré, à ce qu'on puisse la mettre sur place. Donc c'est génial. Alors après ça, il faudra qu'on fasse un appel aux dons, qu'on lancera un petit peu partout pour qu'on puisse financer ça. Mais ça, c'est le premier projet. Et deuxième projet qu'on a lancé également hier, hein, faut savoir que Fabrice, il avait une maison dans l'Orne, hein, qui s'appelle Avoine. Et cette maison-là, du temps qu'il était vivant, Fabrice nous a toujours dit qu'un jour il en ferait un musée. Eh ben, c'est chose faite.
C'est-à-dire
qu'on va lancer l'idée d'un musée, de récupérer toutes les motos qu'il a pu avoir mythiques, hein, toutes les motos qu'il a, qu'on essaie de récupérer, celles qu'il a fait Pikes Peak, ses premières motos, voilà. Et donc on va retaper cette maison-là pour en faire un musée.
Très bien. On a eu l'occasion de l'avoir dans les studios de Radio Campus en 2016.
Oui.
Donc on va passer l'interview. Hein. Il était avec nous donc au micro. Tu es dans quelle région là ?
Moi, je suis dans Normandie, hein, dans l'Orne.
Voilà, d'accord, Normandie, d'accord, oui. Et si tu veux nous écouter, c'est sur Internet. Hein, si tu veux écouter Fabrice au micro de Campus. Voilà.
D'accord. Super.
Donc, et on a Renaud, hein, tu connais Renaud.
Salut Michel.
Oui. Voilà.
Salut.
Qui nous avait expliqué aussi comment. Donc c'était, on parlait un peu du pilote aussi. C'était vraiment un homme très gentil. Hein.
Ah bah c'était quelqu'un qui est très abordable. C'est d'ailleurs ça qui a fait son aura un peu partout dans le monde du pilote. Hein. Franchement, c'était quelqu'un qui était abordable, qui était toujours prêt à donner conseils. Qui savait aider les jeunes, et c'est pour ça que l'association qu'on veut mettre en place et qu'on a mis en place, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on puisse sponsoriser les jeunes pilotes, et puis c'est surtout, si vous voulez, c'est surtout dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de gros moyens pour pouvoir s'éclater et faire sa passion, parce que Fabrice n'a jamais eu de moyens, s'est jamais emmerdé avec les sponsors,
ouais.
Et puis il a toujours vécu sa passion comme il l'a voulu, quoi.
Il vendait du vin pour des cartons de vin pour pouvoir avoir de l'argent pour faire ses courses, hein.
Ah, c'est exactement.
D'ailleurs, il y en a encore à vendre. Et il y aura une nouvelle édition.
Il y aura une nouvelle édition, d'accord. Ouais. Ça continue.
Faire une nouvelle édition pour continuer, mais il y en a encore à vendre.
Il avait participé à un salon de la moto de Pécancourt il y a 2-3 ans, je crois.
Et, oui, je sais qu'il y était attaché à celui-là. Ouais.
Bah, pareil, c'est moi qui l'avais fait monter là-haut.
Voilà.
Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Mais il aimait le monde associatif. Hein, c'est quelqu'un qui aimait bien justement participer dans les salons. Mettre sa moto en exposition, c'est vrai que là-dessus, il était vraiment ouvert et abordable, quoi.
Très bien, ben, merci Michel. On va passer à l'interview parce qu'il fait 8 minutes et on a...
Oui. Un petit truc, un dernier mot, pour ceux qui vont se rendre à Elbeuf, justement, il y aura un petit stand avec Mig et puis Michel, justement, avec le dernier stock de pinard à vendre pour l'association, justement, qui est en place. Voilà. Et ce sera là-bas le 21 octobre, pas Elbeuf, mais à Val-de-Reuil.
À Val-de-Reuil, c'est à Val-de-Reuil, juste après Rouen.
Ouais.
Voilà.
Très bien. Petite précision. C'est dit. Voilà. Merci, bon dimanche.
Merci.
Et nous, on va passer l'interview, si tu veux écouter, réécouter une dernière fois.
Connecte-toi sur le net.
Pas de problème.
Fabrice, voilà. Merci, bon dimanche.
Merci,
à bientôt Michel.
Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors je tenais à dire, c'est Renaud du Café Romain, hein, qui vous connaissez. Et donc c'est Renaud qui t'a invité à venir aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de t'accueillir dans cette émission. D'ailleurs, tu connais aussi Guy, hein, parce que vous êtes aussi rencontrés. Au Titi, sur l'île de Maine.
Mais à l'apéritif des Français, on s'est rencontrés d'abord.
Eh ben oui, ça, tu m'étonnes.
Et Fabrice, c'est notre Guy Martin à nous. Ça fait, je crois, 15 fois que tu fais le touriste en fuite.
15 fois, impressionnant quand même. Et ça fait combien de temps, tu disais, ça fait 15 ans que tu fais des courses sur route, c'est ça?
Oui, voilà, ouais.
Qu'est-ce que ça fait comme course sur route?
Alors depuis 99 que j'ai découvert le TT et la course sur route, hein, c'était ma première course sur route. En 98 j'avais fait championnat de France de course de côte. C'est là que j'ai vu aussi, j'ai rencontré les courses sur route, on va dire. Mais bon, c'est pas spécialement comparable par rapport à des courses sur route irlandaises. Et donc maintenant j'essaye de faire le plus possible ces courses-là j'aime bien.
T'as fait quoi comme type de course sur route déjà?
Alors, je dirais donc 15 TT. Il y a deux grandes courses sur route en Irlande qui sont la Nord-Ouest 200 et le Grand Prix d'Ulster aussi, qui sont des courses là différentes un petit peu parce que là on va partir en paquet. Alors, l'île de Man, c'est la seule course où on compare un par un toutes les 10 secondes. Et après, les courses sur route, on part en paquet, en deux ou trois paquets aussi pour des raisons de sécurité suivant la grandeur de la voie, quoi, la largeur de la voie. Et après, je cours aussi en République tchèque aussi, qui ont une grosse mentalité de course sur route. Chez nos amis belges et voisins, là, actuellement aussi, où qu'ils ont un bon championnat aussi de course sur route aussi. Et puis après, il y en a une en Hollande, à Angelo, qui fait partie du petit championnat qui s'appelle IRRC, International Road Race Championships. Il y a deux courses en Allemagne, une course en Hollande, une course en Belgique, une course en République tchèque. Et cette année aussi... si je peux le faire aussi avec le budget, parce qu'il y a le budget aussi, il y a un retour d'une course à Imatra en Finlande, sur l'ancien circuit international de Grand Prix.
Justement, en parlant de budget, ça a un coût donc de participer à ce type de course?
Oui, c'est un coût, mais ça reste quand même...
Abordable
Oui, abordable, parce que en course sur route, les pneus s'usent moins, on a moins besoin d'avoir un pneu neuf qu'en course sur circuit, où là, il faut vraiment avoir le top en pneu. En course sur route, ça va être plutôt la trajectoire, la façon de piloter.
Mais ta moto est préparée quand même pour
participer.
Ça demande quand même un équipement spécifique.
Oui. Et puis maintenant, les motos aussi, les 1000 sont quand même assez chères. Mais bon, ça reste quand même des bonnes motos. On les a presque d'origine. Après, en course sur route aussi, on retrouve. Mais bon, là, ça se perd un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure. Avant, on restait aussi avec des pilotes, je dirais à l'ancienne, qui n'avait pas trop de budget et qui restait avec des motos proches de l'origine. Et nous, on essaye de mettre un peu de préparation dedans, tout ça. Et puis, hop, le mec, il va plus vite que toi. Tu te dis là, c'est au fait, tu t'aperçois que c'est le pilotage pur.
En parlant de pilotage, t'as pas peur de rouler comme un fou sur une route ouverte comme ça?
Non. C'est sûr qu'avec les motos de maintenant, on est souvent à 320 km/h. Les premiers OTT doivent faire des moyennes de 212 ou 213 chronos, donc ce qui fait une moyenne de 220-230 compteurs.
En roulant à côté des trottoirs, des murets, des maisons.
On se laisse une marge de sécurité, bien sûr, et ce qu'on fait, on sait le faire. Bon,
Parce qu'il y a au moins un mort chaque année au Titi.
Malheureusement.
Et comment tu fais pour te repérer, par exemple, dans les virages? Parce que bon, il y a 60 km quand même.
Ouais, il y a 260 courbes, on va dire.
Ouais. Alors comment tu te repères? Enfin bon, il y a l'entraînement.
Ça dure 15 jours le TT. Il y a la première semaine où c'est des entraînements tous les soirs, où tu fais à peu près entre 3 et 4 tours. Alors ça fait 240 km. Et puis tu as la deuxième semaine où tu as les courses, une journée sur deux. Et donc un TT, on va faire à peu près 2000 km, à peu près grosso modo, de roulage. Et évidemment, faut laisser le temps pour connaître le circuit. Alors c'est pareil, le danger, c'est toi qui le fais. Si tu veux prendre des risques, tu vas prendre des risques. Sinon, si tu roules à ta main, sur ce que tu sais faire, tu prends beaucoup moins de risques.
Mais c'est pas rouler pépère, hein, parce que bon, il faut quand même allumer.
Hyper vite.
Mais il y a eu un accident mortel, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, où c'était un animal, un lapin, ou je sais plus, un truc comme ça, qui avait traversé au moment où le pilote.
Sidecar. Et après, la course, s'il y a un accident, la course s'arrête. Hein, ou bien quand il pleut, par exemple, aussi. Hein.
On n'a pas le droit depuis 2006 ou 2007. Dès qu'ils tombent de l'eau, ils arrêtent la course.
Par exemple, tu retournes cette année alors,
Oui. Alors, on fait une demande d'inscription. On n'est pas toujours sûr. En principe, je vais être pris, mais on fait une demande d'inscription et on reçoit un mois et demi avant le TT.
Et ensuite, tu as piloté plusieurs machines, dont une Voxan aussi, avec le drapeau bleu-blanc-rouge, je me rappelle. Ouais. Alors, cette machine, elle était performante quand même.
Alors, la Voxan, oui, c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi au TT. C'était au niveau châssis, c'est une très bonne moto, la Café Racer. J'ai roulé avec une Café Racer et une Black Magic. Et cette année, j'ai fait Pice Peak aussi aux États-Unis, la course avec une Café Racer aussi. Ouais. L'année dernière, bien sûr. Ouais. Oui, quand je dis cette année, c'est l'année passée.
Parce qu'il y a un nordiste qui était là-bas, qui s'appelle
Christophe. Oui, Christophe Marquis. Ouais.
Tu l'as vu là-bas.
Oui, je l'ai rencontré. On était dans le même hôtel.
Il était en catégorie vintage.
Oui, voilà. C'est une 650 XS.
Donc tu étais à touche à tout alors.
Tout ce qui est en course route. Depuis 3 ans, Pice Peak est entièrement goudronné, donc je me suis dit je vais essayer ça. Bon après c'est bien particulier Pice Peak, mais ça vaut pas un TT par contre. Hein. TT on fait 2000 km à 200 km/h de moyenne et là c'est que du plaisir.
Et chaque année aussi, par exemple, certains touristes, pilotes, motards français viennent te voir et tu expliques un peu tous les virages. C'est de bonheur aussi. Hein,
on parlait de budget, donc oui, j'essaye de trouver un petit peu de budget. Et donc j'ai organisé des petites balades le matin à partir de 7h, parce que bon, pour qu'il n'y ait pas trop de circulation non plus. Et donc on fait le tour du circuit à vitesse raisonnable, bien sûr. Hein, et je m'arrête à une quinzaine de virages et j'explique un peu le ressenti, la particularité du virage, la particularité de cette course-là aussi, parce que c'est une course qui nous travaille quand même beaucoup. Hein.
D'accord. L'année passée, il y a eu un pilote français qui s'est tué.
Oui, malheureusement.
À l'entraînement, non, je crois.
Le deuxième ou troisième jour, Franck. Ouais.
Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de Français qui se pointent sur la ligne de départ.
On est 3-4. Il y a Xavier Denis et Timothée Monod, un Breton, qui font le TT depuis 3-4 ans. J'ai été aussi assez souvent tout seul aussi pendant 3-4 ans ou 2-3 ans, je ne me rappelle plus. Et avant, il y avait... c'est compliqué depuis 5-6 ans, que là, il faut faire 6 courses dans l'année, il faut envoyer une demande d'inscription, il regarde le palmarès du pilote et tout. Avant, c'était beaucoup plus simple l'accès à cette course-là, et donc il y avait plus d'inscrits aussi français.
Oui, il fallait quand même un peu avoir la main avant d'aller au TT quand même. Le gars qui n'a jamais roulé, qui fait du circuit en France, et puis... C'est presque impossible.
Il y a une grosse différence entre le circuit et les courses sur route. Par exemple, Guillaume Dietrich, qui était venu il y a 3 ans, qui a été champion de France en superbike, qui a gagné les 24 heures du Mans, qui est venu faire le TT et ne s'est pas qualifié. C'est un pilote qui est pourtant chevronné, qui sait faire du circuit, qui est un très bon pilote, physique et tout. Et au TT, voilà, c'est en course sur route. Et il a été surpris aussi des vitesses atteintes qu'on peut prendre au TT. On prend 3,20 assez facilement. Et on est souvent, sur 60 km, on est toujours à 250, 260, 280.
Vous voulez qu'on parle triomphe ? Eh bien, vous allez en avoir. Luc, bonjour.
Salut, l'ami. Tu vas bien ?
Oui. Donc, cette donne des nouvelles de cette balade, la DGR, hein, qui est voilà. En fait.
Dans le texte, en français, ça veut dire la balade des gentlemen distingués. Et tu peux y aller, des gentlemen distingués, il y en a beaucoup ici. Hein. Ils sont tous habillés, toutes aussi d'ailleurs, il y a aussi des demoiselles, habillées sur leur 31. Mais il n'y a pas que des triomphes.
Il n'y a pas que des triomphes ? Ah bon, d'accord.
Si, il y a plein de triomphes, mais il n'y a pas que des triomphes. Il y a aussi beaucoup de motos anciennes. Il y a, par exemple, là, il y a un magnifique BSA. À côté, tu as un 900Z, on dirait, qui sort du magasin. Tu as également des sidecars. Tu as, bien sûr, des customs, des Harley, etc. Enfin, tu as plein de motos différentes, toutes plus rutilantes les unes que les autres. Donc, le DGR, là, c'est le DGR 2018. Faut savoir que c'est la 5e édition. La première fois qu'ils ont organisé ça, Triumph Lille, ils étaient 5. Aujourd'hui, ils sont près de 400. Donc, il y avait 380 inscrits tout à l'heure. Faut savoir que par rapport à la France entière, c'est la manifestation qui regroupe le plus de gens après Paris. Donc c'est, vous voyez, c'est quand même pas mal. On est place de la République, là, ça a été un peu du sport pour pouvoir garer les 400
motos à la place de la République, voyons.
Avec un chaussier, voilà, tout à fait, juste devant le préfet qui nous fait coucou. Je fais coucou au préfet, là, il est content, avec les policiers à côté de lui.
Avec
je, crois qu'on va pas rester trop longtemps.
Je vous conseille de vous barrer.
Voilà, je suis avec Fabien qui est venu participer à cette DGR 2018. Donc Fabien, pourquoi tu es venu aujourd'hui?
Ben moi, je suis venu parce que c'est mon premier rassemblement. Je suis un jeune conducteur. Ça fait 3 mois que j'ai le permis et je trouve que c'est l'esprit photo. Rassemblement de motos classiques comme ça pour soutenir une bonne œuvre, c'est-à-dire la recherche contre le cancer de la prostate et la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est dans l'esprit des motos classiques. Certaines vraiment très, très classiques, très anciennes. Et c'est vraiment l'esprit. C'est, voilà, c'est bon esprit, c'est élégant, c'est dans le respect des gens. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai appris la moto et que je roule en classique. C'est pour ça.
Alors, à la Concession Triomphe, il y avait aussi un barbier, donc qui faisait la barbe et puis tu donnais ce que tu voulais. Alors, et puis, il y avait aussi nos amis Xavier et Bénédicte du studio photo, oui. XB1204. Donc, ils faisaient des photos, ils avaient un système de Polaroid et ils te donnaient la photo de suite et tu leur donnais une pièce, ce que tu voulais. Et ouais. tout cet argent récolté va bien sûr financer la recherche contre le cancer de la prostate.
Tu peux nous décrire un peu comment sont vêtus les pilotes et un peu avec des moustaches, des barbes.
Alors, effectivement, mais bon, des barbus maintenant, il n'y en a pas, il y en a plein partout. Hein. Fabien d'ailleurs est barbu.
Il y en a 3 dans le studio.
Pendant une époque, on était en minorité.
Il y a beaucoup de gens aussi qui ont mis des fausses moustaches. Les motos aussi, d'ailleurs, ont des moustaches. Ma moto a une moustache pour l'occasion. Et sinon, c'est quand même assez style un peu anglais, quand même, hein, un peu gentleman anglais, quoi, hein, avec je sais pas comment la cravate, la chemise blanche, le de Falcott, la veste en twin, voilà, tout à fait. Oui. Donc, et ça rend super bien Place de la République, parce que c'est vrai que le bâtiment est sympa, la préfecture est pas mal, derrière il y a les Beaux-Arts, enfin, franchement là, c'est avec un soleil, mais alors magnifique, mais magnifique. Franchement, on a chaud sous le cuir.
Vous avez de la chance, hein.
Voilà, et donc après, on part à Seclin. On va au village moto de Seclin, donc si vous voulez nous voir là-bas, il n'y a pas de problème, on y est d'ici demi-heure.
Très bien. Écoute, on te souhaite une bonne fin de balade, Luc.
Ok. On se retrouve tout à l'heure.
À Seclin. Voilà.
Avec tous les auditeurs.
Avec tous les auditeurs.
Voilà. Allez, salut l'ami.
Allez, un peu, un petit morceau de musique. Allez.
Ok. Ciao.
Tu penses de la musique, Michel ?
Oh, c'est super, ça rappelle
ça arrive, c'est bien, ça, hein, c'est un bon programme. Hein.
Exactement.
Voilà, vous êtes tous en forme, là. Vous êtes tous mimer la guitare.
Exactement.
Voilà.
Mais on a ça dans le sang, on a fait ça depuis toujours.
Bon, on va parler de Cocorico Rando.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh bien, écoute, Cocorico Rando, c'est la volonté de faire rouler des maxi-trails avec les bagages sur les chemins en France. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'aventure en France. Et en fait, on réunit maintenant de plus en plus de passionnés qui voudraient mettre un peu les roues dans la terre plutôt que sur le bitume toujours, avec des maxi-trails.
Après les trails, c'est un peu logique aussi.
Exactement. Ouais. Et en fait, ça commence notre saison en quelque sorte. Hein, commence au mois de mars avec la March Moto Madness parce que c'est pendant cet événement qui a lieu sur un terrain privé où on crée un certain nombre de manèges avec tous les niveaux de pilotage possibles que les gens qui sont un peu craintifs au départ peuvent venir s'exercer un peu, prendre des conseils. L'année dernière, on avait Frétinier qui était là, David Frétinier qui était venu porter conseil à quelques pilotes. Et puis surtout, c'est un moment de rencontre avec des pilotes qui ont déjà vécu plusieurs randonnées et qui sont un peu plus avertis, tels qu'Olivier.
Olivier, tu le fais ça cette journée, ce week-end formation en fait en gros
Oui. Alors j'étais pas cette année, mais j'étais l'année dernière. Alors c'est effectivement l'occasion de rencontrer et retrouver tous les potes des randonnées précédentes. C'est aussi le moment où on ressort un peu les machines, on les déshiverne, puisque en fait le March Moto Madness, l'idée c'est ça, c'est le déshivernage des motos. Et puis voilà, l'occasion de passer des bonnes soirées.
Un peu comme les ours, on sort de l'hibernation.
Ouais, voilà, c'est ça. On sort de notre hibernation, on sort de notre terrier, on ressort les bécanes, on les met dans la terre. Il y a des fois, c'est bien parce que ça permet de se remettre en selle, de se réchauffer pour la saison. Puis surtout, c'est de retrouver aussi les potes. Donc, c'est pas que du pilotage, c'est aussi un bon moment de rigolade, déconnade. Cocorico Rando organise aussi dans cet événement pas que des ateliers de pilotage. Il y a également des tracés qui sont proposés, des mini-randonnées qui sont proposées qui vont se faire sur 2 heures, 3 heures.
C'est accessible à un débutant, à ton avis, pour toi qui déjà a l'expérience?
Oui, c'est le March Moto Madness, justement pour un débutant, ce qui est pas mal. Un débutant qui voudrait faire d'autres randonnées, l'avantage du March Moto Madness, c'est qu'il va avoir le temps de prendre en main sa moto, de s'affranchir, de prendre confiance en lui et de se dire « ouais, c'est possible avec ce genre de moto ». Moi-même, quand on a commencé à refaire ces randos avec je peux pas le citer, c'est Antoine qui a créé ce concept. Quand ça a démarré, c'est ce que ça manquait un petit peu, parce qu'il y avait les randonnées et il n'y avait pas ce March Moto Madness en début de saison. Donc tu avais des personnes qui regardaient ces randonnées avec curiosité en disant « est-ce qu'on peut aller mettre dans les chemins des bécanes de 250 kg ? Comment ça va se passer ?» et puis des personnes donc, oui. Du coup, qui viennent dans cette sortie qui est importante en début d'année.
Je voulais en venir parce que les motos, les trails, ils prennent un peu de l'embonpoint. Moi, je trouve que c'est... Nous, on a roulé sur les Royal Enfield, l'Himalayan. Oui. C'est vachement sympa quoi, comme petite machine.
Alors,
et c'est pas lourd du tout. Et là, mais quand je vois, par exemple, l'Africa Twin avec laquelle vous êtes venu, là, c'est d'abord, c'est très haut. Il faut presque une échelle pour alors, monter dessus.
C'est pas de moto de nain, c'est vrai.
Hier, je prends la BMW 1200. C'est de plus en plus haut, ces machines.
Non, elles sont pas toutes aussi hautes. Alors, pour juste la petite histoire, moi, j'ai redémarré. J'ai fait beaucoup de motocross quand j'étais gamin. J'avais arrêté. Et l'idée, en fait, de refaire du trail, elle est venue un peu de ça avec Antoine. Parce que ça nous manquait. Et on se disait, tiens, aller d'un point A à point B en utilisant un maximum de chemin, parce que quand on était gamin, on allait essayer nos motos de cross dans les chemins. Puis l'idée, c'était de se dire, tiens, bah, on a envie de continuer à faire de la bécane. Et moi, j'ai commencé avec un 600 XT, parce que j'avais un petit peu peur. J'ai vu Antoine partir avec sa 1200 Ténéré, mais pour moi, c'était un char. Lui.
Voilà.
C'est pas possible, mais lui, bon, peur de rien, il est allé reconnaître des randonnées tout seul avec sa bécane. Et puis là, moi, aujourd'hui, ben, ça y est, c'est bon, je suis aussi un petit peu affranchi du poids. Je roule avec un Africa Twin. Le poids, c'est pas un problème, en fait.
Moi, je trouve quand même qu'il faut quand même une moto qu'on puisse relever tout seul.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que
oui,
imagine, tu pars dans un chemin, t'es ouais. tout seul, alors, la moto, elle tombe.
Bon, ben, je peux t'en parler, Nico, parce que dimanche dernier, ouais. ça fait 5 ans que je roule en trail. J'ai fait ma deuxième chute, donc dimanche dernier, avec mon Africa Twin. Je l'ai foutu par terre.
À la Qatar.
Je l'ai foutu par terre. J'étais dessous. Je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Me suis assez extirpé facilement et je l'ai remonté assez facilement. Maintenant, si tu fais allusion au BM 1200 oui, GS Adventure, bon, l'avantage, c'est qu'avec les cylindres, ça tombe jamais vraiment complètement à plat. Mais c'est ouais. une technique pour la
relever. Je me souviens d'un gars, Luc Cotterelle, hein, qui a fait ce fameux voyage en Afrique oui. Pendant 2 ans. C'est lourd. Hein. Et pour la relever, cette machine, il faut déjà avoir des bras. Hein.
Effectivement, il y a une technique. Hein.
Tu la relèves une fois, tu la relèves deux fois. Mais après, c'est vrai, c'est le problème, c'est que c'est épuisant.
Oui, alors c'est quand il y a la fatigue que ça peut être compliqué à relever. Ou alors que je pense que sur une moto comme l'Africa Twin, tu arrives toujours à te sortir sous la moto. Après, il y a des chutes où on a vu effectivement des personnes qui pouvaient être coincées. D'où l'intérêt de rouler toujours en binôme, de rouler toujours en bande. Puis de toute façon, l'esprit motard, c'est de rouler en bande aussi. Hein.
Et puis c'est l'esprit de Cocorico. Il faut savoir que dans nos randos, on fait partir les pilotes en petits groupes. Qu'on espace d'une minute et demie, deux minutes, et que, en fait, même les pilotes qui sont arrivés seuls, très très vite, en conversation, avant le départ, trouvent des compatriotes qui utilisent la même trace, puisqu'on a 3 catégories de traces, et se mettent ensemble. Donc, généralement, c'est toujours des groupes, et lorsqu'il arrive un petit déboire à l'un ou à l'autre, il y a toujours les copains qui sont là pour l'aider.
On rappelle, le concept, c'est sur 3 jours. Hein.
C'est
des gens qui n'ont pas beaucoup de vacances voilà. et qui peuvent donc sur 3 jours, hein, vendredi, samedi, dimanche, éventuellement
exactement.
Et lundi. Hein, voilà, donc.
Mais tu rentres bien rincé les 3 jours. Hein.
C'est, oui, oui, non, mais.
C'est 220 km. Ouais, voilà. c'est pas à fond, mais bon, t'as les fesses sur la moto de 9h ouais. du matin.
Non, je veux dire, on part pas qu'un jour, quoi. On part pas sur dans un pays lointain.
Ouais, c'est pas un raid.
Ouais, c'est pas un raid. Voilà. C'est sûr. Et donc, c'est en France. Hein.
Alors, et c'est en France. Et donc, l'aventure en France.
On a le programme 2019.
Exactement, parce que 2018, c'est bouclé. La dernière, c'est la Royal qui aura lieu. Qui aura lieu le mois prochain. Mais je dirais que tout ça est bouclé depuis longtemps. Hein.
C'est toujours complet. Hein.
C'est toujours complet et ça va très vite. Il faut savoir que la Paris-Dunkerque, par exemple, elle s'est bouclée en 9h. Hein. Mise en internet à 9h un matin et 9h plus tard, c'était bouclé. Il y avait 200 pilotes.
Il y a une demande à ce truc-là.
Je voulais en parler de la Paris-Dunkerque. Ce que ça donnait, pour la comparer en fait, avec votre course, ce que ça donnait.
Alors, la Paris-Dunkerque par rapport à la Qatar, c'est quelque chose qui est plus costaud, la Paris-Dunkerque. On est dans la Qatar, on est quand même sur des chemins qui sont beaucoup plus roulants. Le Paris-Dunkerque, ça porte bien son nom, hein, on pourrait le confondre avec le Paris-Dakar, mais ça porte bien, ça porte bien l'esprit. D'ailleurs, cet été, j'ai rencontré les fils d'un cousin. Et je ne savais pas du tout qu'il rêvait de faire le Paris-Dunkerque. Je ne m'imaginais pas que le Paris-Dunkerque, c'était devenu ça aussi dans, chez les jeunes. Parce que cette année, on a découvert qu'il y avait beaucoup de jeunes qui s'étaient inscrits. Ouais. Alors, avec des montures qui étaient...
Il y a beaucoup de motos vintage au Paris
d'Anquerque. Ah, génial. Nous, on est tombé sur les... Dans le bivouac, le premier jour, on est tombé avec une bande qui était en Kawa W650 avec une bonne ville et une autre bonne ville. Et les mecs, des vrais warriors, quoi, parce qu'une bonne ville... Dans la deuxième journée qu'on a eue cette année au Paris-Dunkerque, c'était de la boue. Hein. Il était tombé de la flotte toute la nuit. Le premier chemin qu'on a pris, c'était Holiday on Ice. Et on s'est dit, waouh, là, pour rejoindre l'arrivée, ça va être chaud. Et eux, avec leur bonne file, ça, c'était l'écurie insolite qui était sur le Paris-Dunkerque. Alors, tous les ans, il y a un peu des motards insolites qui sont là. Il y a deux ans, c'était des Belges qui étaient venus en Vespa. Qui était venu en Vespa et c'était drôle. Cette année, il y avait encore, Michel en parlera
tout à l'heure. Ça doit être marrant, les passages à gué.
Surtout en scooter.
Alors, c'est très étonnant parce que vous acceptez n'importe quel type de machine. Hein. Vous n'acceptez pas les gros trails.
L'objectif, c'est les gros trails, les maxi trails. Ouais. Hein. Alors après, il se passe deux choses. C'est que d'une part, on a des pilotes entre guillemets qui continuent à être passionnés, qui prennent un peu d'âge et puis qui se rendent compte qu'un maxi trail c'est devenu trop lourd pour eux et qui reviennent avec des motos un peu plus légères qu'ils ont acquis pour l'occasion. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a des associations aussi. Cette année, au Paris-Dunkerque, on avait reçu des jeunes avec des mini-scooters, mais c'était une association d'insertion. D'accord. Il y a des choses comme ça, quelquefois, qui font les passes droits, en quelque sorte.
Et tu parlais de trois traces.
Oui, alors il y a toujours une trace, dans tous les cas, il y a une trace bitume pour les accompagnants et pour les fatigués, en quelque sorte. Hein. Ensuite, il y a une trace aventure qui est un peu plus légère, en quelque sorte, et une trace extrême pour ceux qui savent.
D'accord.
On va passer à un morceau de musique parce qu'on va appeler Bolzel. Vous savez Bolzel, c'est les flancs.
Oui, dans les flancs.
Vous êtes dunkerin.
Et il y a un café renommé là-bas.
Il y a un café autour du monde. DJ et Flora. Voilà.
Dimanche prochain, ce sera la 6e édition des Belles Mécaniques à Bolzelle. Et nous avons DJ au téléphone, le grand organisateur de cette 6e édition. DJ.
Oui, bonjour.
Bonjour DJ, comment tu vas?
Ça va bien.
Bon, impeccable. ça se prépare, cette 6e édition des Belles Mécaniques?
Oui, alors la 6e édition, ben, il y aura quelques petites choses nouvelles, hein, bien sûr. Déjà, on a des stand clubs qui seront ouverts cette année, avec les Vieux Clous, les Caïmans, vous bien sûr, Highway 62, Ch'ti Club des Web, etc., etc. Donc ça va être une édition bien fournie. Hein, en voiture aussi d'ailleurs, puisqu'on aura un club de voitures américaines, un club de deux chevaux, plus des amateurs de véhicules anciens qui sont présents. Donc que ce soit en voiture, que ce soit en moto, il y aura du monde, il y aura de belles choses à voir, mais nous aurons en plus quelques concours supplémentaires, quelques animations supplémentaires. Alors, pour un déroulé de la journée, ben, à 7h, on va accueillir les exposants, etc. Mais à partir de 9h, les Belles Mécaniques seront ouvertes au public, avec de 10h30 à 11h, un parcours de lenteur qui est prévu sur une surface, comme d'habitude, derrière l'église. De 11h à 12h30, on aura vraisemblablement un défilé de pin-up qui va se faire. Alors, des pin-up qui sont habillés, coiffés par une coiffeuse d'un village aux alentours, Esquelbec pour ne pas le nommer. De 12h30 à 14h, on aura un groupe de musique qui va se mettre en place, qui s'appelle les Neverhold. C'est un groupe de Bolzelle qui joue ACDC, Scorpion, enfin ce type de musique. De 12h à 15h, bah, ce sera la période du repas, pour à 15h faire une balade. Et cette balade, cette année, ce sera la balade des moulins.
D'accord. Oui, ben, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin, voilà, de la mer.
Oui.
Et puis aussi, vous allez avoir l'arrivée de cette première virée des motos en fer.
Oui.
Tu connais le concept?
Un peu, oui.
C'est des, des motos à kick. Mais... Des motos à kick. Hein. Oui. C'est réservé donc à ce type de machine.
Ouais, ça va être super ça.
S'ils arrivent jusque là-bas, hein, parce que c'est départ Lille, hein, je ne sais pas s'ils vont arriver jusque Bolzelle. Hein.
Oh bah si, allez, il n'y a que 60 km, ça les fera bien.
Ah oui, mais tu sais, il y a des BSA 650 Lightning, tout ça, alors donc on a peut-être des doutes voilà, sur la fiabilité, certainement. Voilà, bon, enfin, on verra bien. Donc je vois aussi qu'il y a un concours de démontage de moteur.
Alors oui, bon, ça c'est absolument pas sûr que ça se fasse. Par contre, il y aura un concours de pesée de moteur.
De pesée de moteur aussi. Voilà. Et on gagne quoi?
Eh ben, vous allez gagner, il y aura une grande bouteille de verre, accompagnée de ces verres, enfin, une grande bouteille de bière, pardon, accompagnée de ces verres. Il y aura quelques...
L'apéro, il y a déjà tenté.
Une grande bouteille de verre, ça va être dur à boire.
Bon, Didier, on va te laisser, là, parce que... Je vais finir la bouteille. Ok. Bon, on va donner... C'est sur le calendrier, petit qu'un coup, page 44. En fait, on va donner le numéro de téléphone. C'est le 06 17 57 92 08. C'est au Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est un bistrot. C'est ton bistrot, Didier?
Oui.
Voilà. Alors, c'est votre bistrot avec Flora, hein, vous êtes à deux, vous êtes en couple.
Voilà, voilà. Moi, je suis retraité maintenant, donc j'ai un peu plus de temps.
D'accord.
Hein? Alors, okay. J'ai une chose à ajouter quand même, hein, c'est que s'il y a des participants qui veulent venir encore, bah, les places peuvent encore être ouvertes. Voilà. Le matin, on accueille avec les gens avec un café, et le soir, enfin le midi, il y a un repas prévu pour ceux qui ont une moto ancienne qui se présente.
Et la grande nouveauté pour dimanche prochain, la grande nouveauté cette année, c'est qu'il va y avoir du soleil.
Eh oui, il y aura du soleil, j'en suis persuadé.
Parce que vous n'avez pas de chance. Hein. Je crois que sur 6 éditions, sur 5, il y en a eu au moins 4 sous la pluie.
Pas sous la pluie. On a eu une sous la pluie. Bon,
un petit crash.
On va dire trois venteuses, mais la pluie s'est arrêtée à 8h du matin.
D'accord. Bon,
c'était un coup de bol.
Ah bah là, c'est
un coup de bol.
À Bolzel, ouais. Bon, oui. Bon, voilà. Et Bolzel, on rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas Bolzel, c'est à côté de Dunkerque, hein, pas loin sur l'autoroute là-bas. Hein.
Oui, alors c'est entre, on va dire, c'est pas très loin de Berg.
Berg, voilà.
Sur la route entre Dunkerque et Saint-Omer, c'est un petit patelin qui se situe à peu près une dizaine de kilomètres du Mont Cassel.
Très bien. Mais écoute, DJ, on te remercie. Passe un bon dimanche et nous, on se retrouvera dimanche prochain à Bolzel.
À bientôt.
Voilà, on repart avec le Cocorico Rando avec Michel. On revient un petit peu donc sur. On peut donner peut-être le calendrier 2019. J'ai vu qu'il est sorti là.
Avec grand plaisir. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les inscriptions passent par Internet, bien entendu. Hein, et qu'il y a des dates d'ouverture des inscriptions. Alors, par exemple, la Marche Moto Magnès, qui est le premier événement de l'année au mois de mars, l'inscription, c'est à partir du 3 novembre.
Et c'est où ? Ça se passe où ?
À Dreux.
D'accord.
Et donc, à partir du 3 novembre, il faut veiller l'Internet, parce que ça va très vite, comme je vous l'ai dit. La Paris-Dunkerque, qui a lieu au mois de mai, l'ouverture des inscriptions, c'est en décembre, le 1er décembre.
Donc, c'est départ de Paris.
Et
il faut prévoir son bivouac, la tente ou l'hôtel, ou comment on fait pour se loger.
Alors, c'est bivouac. Effectivement. Hein. En fait, les pilotes font ce qu'ils veulent. Au moment de l'inscription, on donne aussi des indications sur des hébergements possibles. La grande volonté, quelque part, vous l'avez compris, c'est quand même de se réunir en bivouac, puisque c'est l'aventure en France. Et ça veut dire que les pilotes emmènent leur bagage et la tente. Par contre, effectivement, l'abri pour tous les repas et tous les repas du soir sont prévus. Et sont accueillis, bien entendu. Moi, je fais partie notamment de l'équipe de logistique qui va monter le chapiteau, démonter le chapiteau, etc.
Alors, c'est le camion qui part avant tout le monde, alors.
Exactement,
c'est ça,
voilà.
Ah, hein, et tu arrives avant tout le monde pour pouvoir monter
ce fameux ensemble,
chapiteau,
etc., pour pouvoir accueillir les pilotes le soir à leur arrivée.
Donc, le repas,
voilà,
compris.
Le repas est compris, bien entendu. En fait, on fournit une trace sous un format qui permet d'être introduit, notamment sur un tripi, qui est une solution très très adaptée pour ce genre de parcours, hein, avec le boule flèche, mais qu'on peut aussi télécharger sur un TomTom ou sur d'autres marques de GPS. Mais généralement, les pilotes nous disent que le tripi, c'est vraiment la meilleure façon de se guider.
Oui, voilà. On se met un clin d'œil avec Nicolas Trippi, parce qu'on a déjà eu des petits soucis.
Ah bah oui, alors donc on a
heureusement qu'on avait une bonne carte, parce que vous avez emmené dans l'inverse de là où on devait aller.
Alors nous on prévoit une petite formation pour les gens qui louent un Trippi, qui ne s'en sont jamais servis, et puis ensuite on a bien sûr les points de recharge tous les soirs qui sont prévus. Voilà.
Ok, très bien.
Une belle invention belge, le Trippi.
Oui, c'est belge.
Ouais, c'est belge.
En plus. Mais une belle invention belge.
Voilà, moi j'ai un petit message de la Fédération française des motards en colère à vous donner. Ils m'ont envoyé des mails, tout ça. Donc c'est motard, donc qui s'adresse aussi aux femmes, et motard du département du Nord, à présent que la limitation de la vitesse à 80 km/h a été passée en force.
Ah, vous, ouais, bien sûr, on est tous d'accord.
Ça vous fait. Et qu'elle rapporte gros. D'accord aussi.
D'accord aussi. Oui, en fait, ça m'est arrivé de perdre 2 points. Là.
Oui, déjà, voilà. Hein. Alors, l'État va logiquement avoir les moyens de réparer les voies de notre réseau routier secondaire et doubler aussi les barrières de sécurité. Et forcément, ça a tellement ramené d'argent, cette limitation à 80 km/h. Donc, nous avons besoin, là, je parle au nom de la Fédé, hein, nous avons besoin de vous toutes et tous pour nous signaler les divers défauts que vous pouviez repérer sur vos trajets, alors le matin ou quand en balade. Les tronçons de chaussées déformés, les infrastructures non adaptées, etc., etc. Tout ce qui peut nuire à notre sécurité et également celle des autres usagers de la route. Comment faire ? Voici comment vous pouvez procéder pour nous aider à inciter les pouvoirs publics à agir dans le bon sens. Prendre des photos précises, en plan large et gros plan. Décrire le ou les défauts et indiquer le ou les lieux connectés et concernés. Envoyer les documents et photos à la... Enfin, c'est un peu long quand même, hein, faire tout ça, mais je sais pas si vous...
Oui.
Hein. Voilà, envoyer les documents et photos à l'adresse commune du bureau de votre antenne départementale FFMC, bureau ffmc59@gmail.com, avec vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter rapidement. Voilà, Donc ça, c'est le message de la Fédé qu'on m'a demandé. Bon, donc si vous voyez des gros nids de poules, bah non, trialiste, enfin toi, dans le trail, c'est pas le problème. Toi, tu vas en trouver.
Oui, nids de poules, c'est pas un problème.
Il n'y a pas de panneau à 80 sur les petits chemins.
Il n'y a pas de limitation. Voilà.
Est-ce que je peux apporter un petit témoignage sur mon été là, parce que j'ai fait 5000 km cet été à travers l'Europe. J'ai traversé la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, l'Italie pour la route du retour.
Et donc, qu'est-ce qui roule ?
Sans voir un seul radar dans les 10 pays. Nous traversons les Alpes par le tunnel du Fréjus. Entre parenthèses, très cher, c'est une honte. Et 200 mètres après la sortie du tunnel, les gendarmes avec, devinez quoi, un radar.
Très
bonjour,
cher.
Bonjour voilà. Chez vous, merci bonjour la France. Merci bien, il n'y a rien à voir. Ne roulez plus. Mais continuez à payer votre essence bien cher.
C'est la France, et malheureusement. Voilà.
5000 bornes sans en voir un.
Il nous reste 2 minutes, même pas. Michel a un dernier message pour Cocorico Rando. Et Olivier ?
Olivier, je laisse la parole au pilote.
Il reste 1 minute et demie là.
1 minute et demie, bah écoutez, si vous voulez vous imaginer et vous projeter dans l'aventure à l'étranger, n'allez pas chercher plus loin, restez en France. On a des terrains de jeu qui sont magnifiques et incroyables.
Très bien. Et le prochain Grand Prix, merci, c'est le week-end prochain et ce sera en Thaïlande. Et c'est un nouveau. C'est
pour la première fois.
C'est la première fois. Hein. Ouais. Donc c'est un circuit que les pilotes ne connaissent pas.
Non, il est en pleine brousse.
Donc c'est au Burinan.
Ouais. Voilà, c'est à 200 km de toute vie.
Et là maintenant, on va avoir de toute vie. Ouais. Il reste le Japon, l'Australie et la Malaisie. Il va falloir se lever de bonheur. Non, c'est tard. Non, c'est en avance. Il va falloir se lever de bonheur pour voir les Grands Prix.
Oui.
Ouais, voilà.
Oui,
c'est parti.
Voilà.
C'est en avance. C'est en avance. Il va falloir se lever à 6 heures du matin.
Même 3 heures.
Même 3 heures.
3 heures.
Nous, on fera une émission le 18 novembre, peut-être. Pour le dernier Grand Prix à Valence.
Pour conclure tout ça. Ouais.
Pour conclure cette saison 2018.
Pour clôturer tout ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui.
Tout ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui. Il va encore être frustré encore. Il va me dire j'ai pas le temps de dire truc. À chaque fois, c'est pareil. Merci Michel, merci Olivier, merci Claude, merci Nico. Merci Renaud et Yanis, qu'on n'avait pas présenté, mais moi je vous présente à la fin de l'émission.
Moi je suis le touriste de la
Et merci Laurent.
Eh bien, à la semaine prochaine.
Je me permets juste de rappeler cocorico en un seul mot.fr.
.fr, voilà.
Cocorico Rando.
Passez un bon dimanche et rendez-vous dimanche prochain, 11h, sur les ondes de campus.
Salut.
Bon dimanche à tous.